plus m'installe. Bonjour à toutes et à tous. Très content d'être là après quelques dimanches où on était un peu à droite à gauche avec la famille. Un bonjour spécial aux collégiennes et aux collégiens qui se sont mis bizarrement assez loin de moi. Il y en a aussi là-haut, hein, je vous ai vu, Éline et Marie. Et puis Mathéo, là, juste là. Donc j'espère que vous êtes bien réveillés là ce matin, parce que je vais avoir, je vais faire appel à vous. Regardez pas vos chaussures. Juste une petite annonce aussi pour nos amis anglophones. For English speaking people, there is a translation of the predication, so you can get it. To when you go to Mama Grace, she has. I don't know if people are want to have them. Okay. It's automatic translation. I didn't work very much. Une petite question pour commencer. Qui a regardé vendredi soir, pas hier soir, parce que hier soir on a perdu, mais qui a regardé le match de foot vendredi soir? Ouais. Jean-Haut, tu l'as regardé? Ça va, c'était pas trop dur. En tout cas, ce genre d'événement, Coupe du Monde de foot, Jeux Olympiques, c'est des événements où on a des gens de toutes les nationalités qui se réunissent, qui se rassemblent. Aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, tous les pays avaient, sauf un, le Vatican, avaient envoyé des athlètes. Donc on imagine le village des athlètes, toutes les langues, des gens qui viennent de tous les pays du monde, qui parlent toutes les langues, qui se côtoient pendant plusieurs jours. Et à l'époque de Jésus, il y avait aussi des grands rassemblements où des gens venaient du monde entier à Jérusalem, pas pour faire du sport, mais pour vivre des fêtes religieuses, pour célébrer des fêtes religieuses. Ils faisaient des longs voyages, et on va déjà poser une première question aux collégiens, mais aussi à tout le monde. On va l'afficher. Ces grands rassemblements à Jérusalem, où des Juifs venaient de tous les endroits de l'Empire romain, Quelles étaient ces occasions? Alors, parmi cette liste-là, ça c'est des fêtes que nous, on a fêtées, là, on est quel jour aujourd'hui? Le dimanche de Pentecôte, c'est ça, il n'y a pas classe demain, il n'y a pas de travail demain. Alors, est-ce que c'est Pâques, laquelle n'est pas fêtée aussi, n'était pas fêtée par les Juifs? Alors, vous avez déjà, qu'est-ce que vous proposez? Marie, Éline, vous êtes d'accord? L'Ascension? Ouais, bonne réponse, effectivement. Pâques, c'était le souvenir de la libération d'Égypte, du peuple d'Israël. Et la Pentecôte, 50 jours après Pâques, c'était une fête qui était à la fois une fête des moissons et une fête pour se rappeler du don de la loi à Moïse pendant l'Exode. Et à ce moment-là, les Juifs du monde entier venaient à Jérusalem et on entendait parler toutes les langues qui existaient à l'époque autour de la Méditerranée, dans l'Empire romain. Et 50 jours après la mort de Jésus, à Pâques, il y a la Pentecôte, une grande fête juive. Les disciples sont réunis. Ils étaient plus que 11, puisque Judas s'est suicidé. Ils en ont choisi un 12e, Matthias. Ils sont réunis. Et on va lire ce qui se passe dans le livre des Actes, au chapitre 2, dans la version du Semeur. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir ou les allumer. On va lire ensemble qui s'est passé à Jérusalem ce jour-là. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion et nous venons de la Crète ou de l'Arabie. Et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. » Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. « C'est le vin doux, » disaient-ils. « Ils ont trop bu !» Alors, Pierre se leva, entouré des 11, et d'une voix forte, il dit à la foule « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout. Il est à peine 9h du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, par des visions, vos vieillards, par des songes, recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront. Je ferai des miracles, et là-haut, dans le ciel, et ici-bas, sur la terre, des signes prodigieux. Sang, feu, colonne de fumée. Et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur. Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous, Jésus de Nazareth est cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'a prouvé, en accomplissant par son moyen, au milieu de vous, des miracles, des signes et des actes extraordinaires. On arrête ici la lecture, mais Pierre continue ensuite à parler devant cette foule qui est rassemblée. La Pentecôte. Faites des moissons et du don de la loi pour les Juifs, pour nous chrétiens, rappel de cet événement. Le Saint-Esprit est donné aux croyants. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le Saint-Esprit. On l'a déjà mentionné ce matin. Morel en a parlé dans son témoignage. Jean-Haut, au moment de la Sainte Cène. Et notamment à commencer par le fait que ce n'est pas un super pouvoir. Parfois, on peut avoir cette idée-là. Ce n'est pas un super pouvoir, ce n'est pas une puissance abstraite. C'est une personne divine, une personne de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Et je propose de regarder de plus près ce que le texte qu'on vient de lire peut nous apprendre sur le Saint-Esprit. Alors, deuxième question pour les collégiens, un peu plus dure celle-là, mais la première, bravo, hein, chouette. Alors, la question est la suivante. Est-ce que c'est à la Pentecôte que pour la première fois l'Esprit de Dieu a été donné à des humains? Alors, trois possibilités. Réponse A, oui, c'est la première fois. Réponse B, non, il y a des exemples plus tôt dans la Bible. Réponse C, là, l'angocha. Alors, vous avez le droit de demander l'aide des adultes. Hein. Hein? Alors, il y en a qui pensent le C. Ouais, C, ça c'est une bonne réponse. Pas de souci. C, c'est la bonne réponse. Très bien. Et sinon, effectivement, c'est B. Réponse B. On trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament, donc avant la naissance de Jésus, mais même aussi dans les évangiles, pendant la vie de Jésus, plusieurs personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Gédéon, Samson, Ésaïe, Ézéchiel, Marie, la maman de Jésus, Élisabeth, sa cousine, Jean-Baptiste, plusieurs personnes ont reçu le Saint-Esprit, déjà avant la Pentecôte. Mais alors, pourquoi est-ce que la Pentecôte est tellement importante? Pourquoi on s'en rappelle chaque année? La différence est la suivante. C'est que avant la Pentecôte, Dieu donnait son esprit à des personnes en particulier, dans des moments précis, pour des tâches spécifiques. Par exemple, pour Gédéon et Samson, c'était pour libérer Israël. Ézéchiel, Ésaïe, c'était pour parler au nom de Dieu, ce qu'on appelle des prophéties. Marie, Élisabeth, Jean-Baptiste, c'était toutes des personnes qui étaient liées à la naissance de Jésus. À la Pentecôte, le Saint-Esprit, il est donné cette fois largement. Il est donné, dans le texte qu'on vient de lire, aux 12 disciples, à tous les 12 disciples. Et puis ensuite, dans la suite de ce livre des Actes des Apôtres, on voit qu'il est donné à tous les croyants. Tous ceux qui se tournent vers Jésus, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur ethnie. Prenons une image. L'image de l'eau. On peut avoir de l'eau dans une gourde. Alors ceux des collégiens qui sont au flambeau, ils utilisent souvent une gourde quand ils font une marche, quand on fait un pique-nique. La gourde, l'eau qui est dans la gourde, on va l'utiliser pour une certaine durée, pour un moment donné, pour une certaine activité. Et on peut aussi aller au bord d'un lac, où là l'eau est en abondance et se plonger, s'immerger dans le lac. Avant la Pentecôte, le Saint-Esprit était donné aux hommes un peu comme dans une gourde. À la Pentecôte, il est donné avec abondance, comme de l'eau qui se répand.
On aurait dû remplir la baignoire qui est en dessous, mais ça aurait peut-être utilisé beaucoup d'eau.
Et cette image de l'eau, Jésus l'utilise, l'annonce. On va afficher un passage de l'évangile de Jean. À un moment donné, quand Jésus était dans son ministère, un jour il a parlé à la foule en disant « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive, car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » Et Jean précise, en disant cela, Jésus faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. C'est-à-dire Jésus n'était pas encore ressuscité, il n'était pas encore retourné au ciel. Le Saint-Esprit, c'est cette eau qui jaillit, qui nous immerge tous. C'est plus réservé à certains. Pour les collégiens, une image peut-être un peu plus parlante. Alors les adultes, vous bouchez les oreilles parce que dans l'Ancien Testament, les chrétiens, c'était un peu des astérix. Enfin, les croyants. C'était des Astérix. Ils recevaient le Saint-Esprit comme dans une gourde. Astérix, vous savez que lui, il a besoin de sa gourde quand il a besoin de faire une activité particulière. Avec la Pentecôte, les croyants, on devient tous des obélix. Parce qu'on est plongé dans le Saint-Esprit, on est immergé par le Saint-Esprit. Voilà, les adultes, vous oubliez ce que j'ai dit. Ça fait partie de nous, ça fait partie de notre identité de chrétien. Le premier enseignement du texte d'Acte 2 qui parle du don du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est désormais donné largement à tous ceux qui se tournent vers Dieu, à tous ceux qui demandent à Dieu le Saint-Esprit. C'est une vérité qui est importante à se rappeler. Le Saint-Esprit vit en chacun de ceux qui sont disciples de Jésus, qui croient en Dieu. Et nous pouvons demander à Dieu de nous rendre attentifs à la présence du Saint-Esprit en nous. Parfois, on peut l'oublier. Parfois, on peut le mettre de côté. Parfois, on peut l'attrister. Que Dieu nous aide à être tout le temps remplis du Saint-Esprit, en permanence, et à en avoir conscience, à nous en rappeler, et à être sensible à la voix de l'Esprit en nous. Parce qu'avec l'Esprit de Dieu en nous, à travers nous, Dieu peut accomplir de grandes choses. Quelles grandes choses Dieu peut-il accomplir à travers son Esprit qu'il a donné à ses enfants? Regardons la suite du texte. À partir du verset 14, on voit un des disciples se lever. Pierre. Il profite de cet événement, de l'Esprit qui arrive sur les disciples, pour parler de Jésus, pour annoncer l'Évangile. J'ai dit que le moment où on a arrêté de lire le texte, ça se poursuit en fait. Si vous prenez votre Bible, acte 2, on voit un premier grand discours de Pierre. Et il parle, le texte nous dit, des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. D'autres traductions disent, il parle des merveilles de Dieu. Pierre parle de l'événement du Saint-Esprit qui arrive sur les croyants avec ce bruit de vent, ces flammes. Et il va s'adresser à des Juifs pour leur dire, mais vous connaissez Joël, le prophète. Rappelez-vous ce qui est écrit dans Joël. Et il va citer cette très ancienne prophétie et leur dire, mais cette prophétie est accomplie. Elle est accomplie parce que Jésus est venu, parce que Jésus a envoyé cet esprit sur ses disciples. Pierre et les disciples ne peuvent pas se taire. Ils ne se cachent pas, ils parlent des merveilles de Dieu. Et même si le texte ne nous le dit pas clairement, l'enchaînement montre de manière assez claire que c'est le Saint-Esprit qui pousse Pierre à parler. C'est le Saint-Esprit qui pousse Pierre à utiliser ces mots-là à ce moment donné, qui va sans doute aussi lui rappeler ce lien avec la prophétie de Joël. Cet enthousiasme à parler des merveilles de Dieu, c'est un peu comme un feu. Comme un feu qui se propage d'une allumette à une bougie, c'est quelque chose qui se répand. Dans le texte que Jean a lu, dans Luc, au chapitre 3, qu'on va afficher, Jean-Baptiste, donc le cousin de Jésus, avait annoncé déjà cette image du feu pour parler du Saint-Esprit. « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais quelqu'un va venir qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. » Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Le Saint-Esprit, ce feu qui se répand et qui, pour les disciples, a été un moteur pour parler des merveilles de Dieu. Et pour nous, quelles sont les merveilles de Dieu qui nous touchent? Quelles sont les merveilles de Dieu qu'on vit? Et quelles sont les merveilles de Dieu qu'on est prêt à partager à ceux qui nous entourent, à nos proches, à nos voisins, à nos copains de classe, nos amis, nos collègues? Alors, on n'est pas l'apôtre Pierre. On n'est pas forcément appelé à se lever, à dire « Écoutez-moi tout le monde, je vais vous faire un très long discours. » Voilà, ça peut être impressionnant de se dire « Ben oui, mais si l'Esprit doit m'amener à être exactement comme ce qu'a fait l'apôtre Pierre, ça fait peur. J'ai pas envie d'aller... je me sens pas du tout capable de faire ça. » L'Esprit de Dieu peut nous donner du courage, un peu de courage. Des fois, il nous manque parfois un tout petit peu de courage juste pour dire à quelqu'un qu'on connaît « Ah, tu sais quoi, dans ta situation, je vais prier pour toi. » Ou juste pour dire « Ben... qu'est-ce que t'as fait dimanche ? Un dimanche, j'étais à l'église. Ah bon, t'étais à l'église ? Voilà. Des fois, on a besoin d'un tout petit peu de courage pour juste dire, tendre une perche qui nous permet ensuite de pouvoir parler des merveilles que Dieu fait dans nos vies. L'Esprit est donné à tous comme de l'eau répandue en abondance. L'Esprit nous pousse à parler des merveilles de Dieu, comme le feu qui se répand. Mais comment est-ce que ce Saint-Esprit, il agit? Sous quelle forme est-ce qu'il agit dans le texte qu'on a lu? Dans acte 2, on voit deux choses assez différentes. Tout d'abord, on vient d'en parler, Pierre se lève. Poussé par le Saint-Esprit, il prend la parole, sans doute dans la langue que tout le monde parlait à l'époque, qui était l'araméen. C'est comme si aujourd'hui, il parlait en anglais, parce que tout le monde comprenait à peu près. Et il parle longuement à la foule. pour dire que Jésus est le Messie et que en se tournant vers Jésus, on peut être sauvé. Ça, c'est la première chose que l'on voit, le Saint-Esprit qui pousse Pierre à parler. Puis le deuxième phénomène est quand même assez extraordinaire, surnaturel. Les 12 disciples commencent à parler dans des langues qu'ils n'ont pas apprises. Alors, je sais qu'il y en a qui passent le brevet, il y en a qui passent le bac, j'ai vu Daniel là-haut. Alors même si Daniel, toi tu parles l'anglais parfaitement, mais je pense que certains seraient assez intéressés hein, d'avoir cette capacité-là au moment de passer les épreuves de langue au bac et au brevet. Savoir parler comme ça, instantanément, des langues qu'on n'a jamais apprises. Comment agit l'esprit ? Dans les deux cas, que ce soit Pierre qui s'exprime en araméen ou les disciples qui s'expriment dans plein de langues, en arabe, enfin voilà. Dans les deux cas, il parle des merveilles de Dieu. Et dans les deux cas, le Saint-Esprit est présent pour donner le courage de parler à Pierre. Pierre, c'était quelqu'un qui était un peu fougueux, mais dans les évangiles, on ne le voit jamais prendre la parole de manière aussi longue. Le Saint-Esprit donne une capacité à Pierre, du courage, et il donne une capacité surnaturelle aux disciples pour parler des merveilles de Dieu. Ça fait penser à l'image du vent. Le vent, il ne souffle pas dans une seule direction. Il y a ce qu'on appelle des vents dominants. En Lorraine, on a des vents dominants qui viennent plutôt de l'ouest et du nord. Mais le vent, il peut changer de direction. Et de la même manière, l'action du Saint-Esprit n'est pas uniforme. On voit que dans un même événement, il a donné la capacité aux disciples de parler des langues étrangères et il a poussé Pierre à faire un discours pour démontrer que Jésus était le Messie. Et ce n'est pas les disciples qui ont choisi. Hein. Au verset 4 du texte qu'on a lu, il parlait comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'image du vent, un joli
éventail du Togo. Ou du Ghana, je ne sais pas.
Et Jésus a utilisé cette image du vent pour parler de l'Esprit. Jean chapitre 3, verset 8, qu'on va afficher. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. Alors si l'Esprit Saint souffle où il veut, comment est-ce qu'on peut faire pour le suivre ? Comment est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a quand même... Il ne souffle pas n'importe comment, le Saint-Esprit. Et en repensant à cet épisode surnaturel des disciples qui ont pu parler des langues étrangères, je pense que ça nous aide à comprendre comment agit le Saint-Esprit, dans quelle direction il souffle. Les disciples ont parlé des langues à des gens qui étaient présents dans cette foule étonnée, qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils ont parlé des merveilles de Dieu et chacun a pu en entendre parler dans sa langue maternelle. Là, je regarde Nathalie qui a fait des études de linguistique. Je pense que la langue maternelle, c'est quelque chose qui fait partie de notre identité. Ici, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément le français comme langue maternelle. La langue maternelle, c'est quelque chose qui fait partie de nous d'une certaine manière. Et c'est quelque chose que l'on... Les langues, on les retrouvera au ciel, puisque les langues font partie du don de Dieu pour l'humanité. Pour moi, le fait que les disciples aient parlé dans des langues qui étaient les langues maternelles des gens qui étaient autour d'eux, c'est le signe que Dieu se soucie de chacun individuellement, personnellement, dans la particularité de chacun. L'Esprit-Saint, c'est l'expression de l'amour de Dieu, et cet amour n'est pas uniforme, stéréotypé, mais il parle à chacun d'une manière différente. L'Esprit-Saint souffle en direction du cœur des hommes et des femmes qui ont besoin de rencontrer Dieu et d'être touchés. J'aimerais illustrer ça par trois témoignages de la manière dont le Saint-Esprit agit. Et on voit Dieu faire souffler son esprit avec le souci de chaque personne individuellement. Le premier témoignage, il est rapporté dans ce livre, Le don de parler diverses langues. Alors, C'est un livre un peu polémique parce qu'il y a 15-20 ans, la question du parler en langue était un sujet un peu sensible dans les églises évangéliques. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme et je trouve que c'est très bien. Mais en tout cas, à l'époque, il y avait, dans ce livre-là, de Ralph Challis, qui est un auteur chrétien assez connu, on trouve le témoignage suivant, qui lui a été rapporté par un de ses amis, et un ami très proche, et qu'il estime être tout à fait véridique. C'est un événement qui s'est déroulé à Bristol dans les années 1960. Et donc, cet ami de Ralph Challis, M. Cox, était chef d'entreprise. Il se rend un dimanche à l'église. Et en chemin, il croise un de ses employés, M. Attaway, qui est chrétien comme lui, et qui lui dit qu'il va près du port de Bristol pour participer à une réunion d'évangélisation en plein air et pour prendre la parole. M. Cox s'étonne un petit peu parce que cet employé-là n'est pas particulièrement instruit. Et il lui dit, est-ce que c'est prévu que vous preniez la parole ? Il a dit non, mais Dieu me demande d'y aller. Bon. Je prends la lecture à cet endroit-là. Donc, M. Attaway se rend au parc The Downs, où il trouva quelques chrétiens qui prêchaient l'évangile à côté du château d'eau. Après que deux frères eurent prêché, un troisième demanda si parmi les assistants, quelqu'un voulait rendre témoignage. Et M. Attaway s'est avancé et commença à prêcher. Au cours de sa prédication, il se mit à parler en une langue étrangère. C'est alors qu'un ex-missionnaire en Chine, un certain Gordon, s'approcha et s'étonna d'entendre un message d'évangélisation livré en un chinois parfait. À la fin de la prédication, il alla voir M. Attaway en lui faisant part de son étonnement de l'avoir entendu parler un chinois cultivé et parfait. Et M. Attaway s'étonna en répondant qu'il ignorait totalement dans quelle langue il s'était exprimé. Or, cette semaine-là, dans le port de Bristol, au quai d'Avonmouth, il y avait un bateau chinois. L'un des matelots chinois se promenait précisément à l'endroit et au moment même où M. Attaway prêchait. Bouleversé d'entendre l'évangile dans sa propre langue, il fut convaincu et se convertit à Jésus. Alors Ralph Challis dit que c'est une histoire qui lui a été rapportée, dont il n'a pas été témoin, mais estime que c'est une histoire qui est pour lui tout à fait véridique. Le deuxième témoignage, ce sera dans une courte vidéo issue des vidéos du parcours Alpha qu'on a visionné lors de différentes rencontres ces derniers mois à l'église. La personne qui parle s'appelle Pippa Gumbel et c'est l'épouse de l'animateur du parcours Alpha. Je vous propose de l'écouter. Le troisième et dernier témoignage de la manière dont Dieu peut agir de manière parfois surnaturelle, surprenante, s'est déroulé ici dans cette église, dans cette salle. Je pense que je veux quand même préciser, c'est pas tellement, pour moi, c'est pas tellement l'aspect surnaturel qu'il faut retenir. Hein. C'est le fait que Dieu s'adresse par son esprit au cœur des gens et aux besoins des gens. Certains d'entre vous connaissent Rezvan, qui est une personne qui vient à l'église de temps en temps avec son fils Sina. Rezvan, elle est d'origine iranienne. Elle est arrivée en France il y a 14-15 ans à peu près. Et elle a participé au parcours Alpha qui s'est déroulé ces dernières semaines. Et lors d'une de nos rencontres sur le thème du Saint-Esprit, elle a partagé une expérience qu'elle a vécue ici, de manière toute particulière. Et je vous la transmets avec son accord. On était, donc il y avait Dominique, Gabriel et Nathalie, on était présents lorsqu'elle nous a donné ce témoignage. Et je l'ai rappelé cette semaine, je lui ai dit, écoute, Rezvan, c'est chouette ce que tu as vécu. Peut-être que ça va pouvoir aussi encourager des frères et sœurs, et elle était d'accord. C'était Daniel Courtin qui était à ma place et qui était de prédication. Et Rezvan venait d'arriver en France. Elle parlait très mal le français. Elle m'a dit qu'elle parle toujours mal le français, mais je lui ai dit, mais non, elle se débrouille bien. Et, mais elle venait quand même au culte, mais elle avait la prédication, c'était très difficile pour elle, elle n'arrivait pas à suivre. Mais ce dimanche-là, à travers les paroles de Daniel, elle entendait Dieu lui parler dans sa langue maternelle. Et elle a dit tout au long de la prédication, elle a senti que Dieu s'adressait personnellement à elle, en iranien. Les paroles qui étaient dites du haut de la chair, elle les a comprises dans sa langue maternelle et cela l'a profondément touchée et émue. Et elle m'a dit ça encore cette semaine, elle m'a dit « Pour moi, c'était comme un câlin de Dieu pour moi. Il connaissait ma solitude, il connaissait mes difficultés. » Et de manière surprenante, il s'est adressé à moi pour me conforter. Pour moi, ces témoignages et ce qu'on a pu lire dans le livre des Actes, signe, montre que Dieu se soucie des individus, de leurs particularités. C'est un Dieu personnel, pas stéréotypé. L'Esprit de Dieu agit de manière personnelle. Notre rôle, c'est d'être sensible à l'action de l'Esprit, d'accompagner l'Esprit dans la direction où il souffle, comme les disciples l'ont fait, comme M. Attaway l'a fait à Bristol, comme cette jeune femme, Jennifer, l'a fait, comme Daniel l'a fait, même si je crois que tu n'étais pas au courant jusqu'à hier. Nous pouvons demander à Dieu de nous aider à discerner les besoins chez les autres et qu'il nous utilise par son Saint-Esprit pour parler au cœur des gens qui sont en recherche. Nous arrivons à la fin de ce message. Il y aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le Saint-Esprit. Mais retenons les éléments suivants. L'Esprit est comme une grande étendue d'eau qui est donnée à tous ceux qui suivent Jésus et dans laquelle on peut s'immerger pleinement et continuellement. L'Esprit, c'est comme un feu qui se répand, comme l'amour de Dieu, comme l'Évangile qui se répand par notre intermédiaire quand nous parlons des merveilles de Dieu. L'Esprit, c'est comme un vent qui souffle que l'on doit chercher à suivre, même si parfois il peut nous emmener dans des directions surprenantes. Ce vent, il souffle vers les personnes qui ont besoin de l'Esprit dans leur individualité, dans leur personnalité. Je vous invite à la prière. Notre Père, nous te disons ce matin merci parce que tu as envoyé ton Esprit sur tes disciples et que cet Esprit Saint vit en chacun de tes enfants. Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que l'Esprit rend tangible ta présence à nos côtés et ton amour pour nous, ton amour pour nos prochains. Saint-Esprit, nous te disons merci parce que tu donnes la vie à ceux qui étaient morts et parce que tu transformes nos vies. Nous te prions, notre Dieu, de nous rendre sensibles à la présence de ton Saint-Esprit dans nos vies. Aide-nous à ne pas l'oublier, à ne pas l'attrister, mais à écouter sa voix et à être continuellement remplis de l'Esprit. Nous te prions, notre Dieu, de nous aider par ton Esprit à parler des merveilles que tu accomplis dans le monde et que tu accomplis dans nos vies. Aide-nous à parler de toi simplement. Montre-nous à qui nous pouvons parler, envers qui nous pouvons être témoins. Nous te prions enfin, notre Dieu, pour que nous puissions suivre ton Esprit là où il souffle, en discernant les besoins de ceux qui nous entourent, de ceux qui ont besoin de toi dans leur vie. Amen. Et pour terminer ce temps d'annonce de la parole, et pour poursuivre ce temps de prière, nous allons prendre un chant qui est comme une prière au Saint-Esprit pour l'inviter à agir dans nos vies.